pliait quand on lui ouvre. Et alors un jour, elle a dit, je m'en vais me cogner la tête contre les murs, et alors je m'en vais me donner une fracture du crâne, alors ils auront peur et ils m'ouvriront la porte. Et c'est ce qui est arrivé. Elle m'avait raconté ses jours précédents qu'une fois, elle avait, comme j'ai dit, qu'elle avait essayé de s'enfuir, on la rattrape à la frontière. J'avais mis dans mon livre l'endroit exact de la frontière, mais elle a eu peur. Elle a dit qu'il faut mettre simplement la frontière, parce qu'elle a toujours eu peur d'eux. Enfin, maintenant, elle est mariée, elle est à l'étranger, elle a fini d'avoir aussi peur. Et une fois qu'elle avait été tellement battue par les infirmiers, pour l'empêcher de déposer plainte, on l'a enfermée dans une cellule d'isolement jusqu'à ce que les traces de coups aient entièrement disparu. Et voilà. Ma foi, se plaindre, d'ailleurs, se plaindre aux autorités, la plainte n'aurait sûrement pas été enregistrée. Vous voyez, comme ce que j'ai écrit moi, aux autorités, au procureur général, à Willy Donzé, c'est le juge d'instruction qui a encore eu l'attitude la plus positive. M'a dit, madame, j'ai bien reçu votre lettre, je l'ai lue en entier. Je ne doute pas une minute de ce que vous dites, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour vous et je vous assure que je ne suis pour rien dans votre internement qui a eu lieu le 31 décembre 75 alors que j'étais en vacances et c'est à ma rentrée de vacances que j'ai appris votre transfert à Bel Air.
On écoute un peu de musique, encore les variations sur un thème de Mozart de Sore.
Thank you.
Ce qui fait peur quand on vous entend parler, et surtout quand on lit le livre, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui vous est arrivé, d'être détruit par les médicaments, d'être enfermé de façon arbitraire, de ne pas être soigné non plus du tout pour quelqu'un qui allait mal, c'est pas du tout une exception. Moi-même, j'étais restée sur l'idée que, bon, il y avait toutes sortes de gens qui allaient à Bel Air, et puis malheureusement, pour certaines personnes, ça se passait très mal. Bon, j'ai connu l'histoire d'Anna, la jeune femme qui avait subi des électrochocs. Je me disais, bon, de temps en temps, il y a des électrochocs, on est contre les électrochocs, mais c'est quand même une exception. J'avais aussi suivi l'histoire d'Alain, le jeune homme qui est mort il y a maintenant 2 ans. Entièrement donc, par la faute des médecins de Bel Air qui lui ont donné des doses de médicaments absolument incontrôlées, mais je me disais, bon, c'est encore une histoire, c'est un abus. Et puis quand on lit ce livre, on a l'impression qu'il ne s'agit absolument pas d'abus, mais qu'il s'agit, pour les pavillons fermés en tout cas, de la vie quotidienne de Bel Air, d'une pratique absolument courante, de destruction des gens. Et en plus, on ne voit pas dans le nouveau système de réorganisation de Bel Air qu'est-ce qui va bien changer de tout ça. Disons, pour le moment, on n'a absolument aucune garantie. Et je pense que, effectivement, on doit se faire à l'idée que ce qui est exceptionnel, c'est que des personnes qui ont passé par Bel Air puissent témoigner ou que leur cas soit amené à la connaissance, disons, du public. C'est pas du tout ce qui leur est arrivé qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Eh bien, je veux d'abord dire que dans les pavillons ouverts, les conditions sont beaucoup moins dures, beaucoup moins difficiles, parce que le malade peut sortir, il est en contact avec l'extérieur, il est en contact avec sa famille. Mais dans les pavillons fermés, alors vraiment, vous savez, les conditions, je crois que ce n'est pas du tout une exception, ce qui m'est arrivé, mais je dirais que peut-être 1 personne sur 1000 peut témoigner, et encore témoigner de façon à se faire entendre, ça n'a qu'une portée très très limitée, témoigner dans son entourage, même témoigner à la DUPSI, les membres de la DUPSI, oui, vont vous écouter, mais comment se faire entendre du public ? Et les personnes que j'ai connues, qui ont été mes anciennes camarades et avec qui je suis encore en contact avec plusieurs d'entre elles, ne sont plus assez lucides, comment dire, pour témoigner de façon assez claire, assez objective, et pour être entendues, comprises, et pour être crues. Elles sont un peu où elles ne se rappellent plus, ou c'est un peu incohérent, ou bien... Mais enfin, je n'ai jamais entendu dire qu'une d'entre elles ou un d'entre eux avait pu vraiment témoigner.
Vous avez connu beaucoup de femmes qui auraient autant de choses à dire que vous sur la manière dont elles ont été traitées.
Oui, elles auraient beaucoup de choses à le dire, mais comment les dire et comment se faire entendre ? C'est pour ça que j'ai parlé du cas de chacune d'entre elles. Cette jeune fille que je nomme Isabelle, elle peut en parler, mais elle a des blancs, ce qui n'est pas naturel quand on a 20 ans. Elle a des blancs, tout d'un coup, elle dit « je ne me rappelle plus ». Même dans la vie courante, des choses que nous avons vécues ensemble, je lui les rappelle et ça lui revient à la mémoire. Et alors après, elle rajoute d'autres détails, mais elle pourrait plus témoigner de façon assez objective pour être vraiment crue. Et aussi, il faut pouvoir écrire, voilà, et trouver, et se faire publier, que les livres soient diffusés. C'est tout un problème, c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai parler un peu du problème de chacune d'entre elles dans mon témoignage. Je me rappelle nettement d'elles, de leur nom de famille, pour autant que j'ai connu aussi le nom de famille, mais j'ai changé évidemment leur prénom pour pas que les gens les reconnaissent et pas qu'elles se reconnaissent. Mais...
Et puis vous leur donnez aussi des surnoms, non ?
Oui,
c'est des très beaux surnoms, ça vaut la peine de les dire.
Oh, c'est des surnoms que je ne les leur donnais pas en leur parlant à elles, mais je les appelais comme ça. Moi-même.
C'était quoi ces surnoms ?
Oh, il y en avait une, ce qui se croyait toute petite, c'était la Lilliputienne, celle qui chantait tout le temps l'espagnol, c'était la Goualeuse, celle qui parlait toujours des démons, c'était la Diablesse, une qui parlait toujours de la princesse Sissi, c'était la Princesse, des surnoms comme ça. Une qui criait, poussait des hurlements, je l'avais appelée Loup-Garou, enfin, c'était pas bien bien méchant, mais je les leur donnais pas, je le leur disais pas, mais pour moi, c'était ça.
Mm-hmm. Quand vous étiez à Bel Air en pavillon seulement pour la nuit, vous aviez organisé un système pour faire sortir les lettres. C'était un exemple de solidarité, disons, concrète entre patients à Bel Air. Vous nous racontez un petit peu comment ça se passait?
Alors, j'ai été à faire après... Je suis entrée le 31 décembre 75 à Bel Air et j'y suis restée en internement jusqu'au 12 mars. Quelques jours avant ma sortie en hôpital de nuit, peut-être 3-4 jours avant, on a arrêté les médicaments. Et à ce moment-là, j'ai compris que je m'en tirerais, que ma voix commençait à reprendre, à se fortifier, que je pouvais de nouveau rester étendue, de nouveau me relaxer, enfin que je pouvais m'en sortir. Et alors, on m'a permis de faire l'hôpital de nuit, mais c'était un compromis des moins concluants et c'était très pénible pour moi parce qu'il y avait une heure depuis Bel Air à mon domicile, du moment où je quittais le pavillon jusqu'à du moment où j'arrivais chez moi. Il y avait une heure, ça s'écoulait, je devais changer de trolley deux fois et sur le chemin, je m'arrêtais à mon travail auprès des personnes âgées. Et j'arrivais chez moi, c'était passé midi, j'avais tout à faire. Je devais rentrer pour 5h15, après, certains soirs je pouvais après rentrer à 9h15, mais quand je devais rentrer pour 5h15, à 4h15, je devais déjà partir de chez moi. Je sais que pendant une bonne partie de ma scolarité, j'avais aussi une bonne heure aller-retour pour mon école, mais voilà, je n'avais pas de domicile à courir en zigzag en plus de mon école, et surtout chez mes parents, je pouvais dormir, tandis qu'à Bel Air, ma foi, les nuits étaient loin d'être calmes. Souvent la nuit, eh bien, j'avais été dérangée plusieurs fois. Il y avait l'infirmier de garde qui me braquait sa lampe. Il y avait sa lampe de poche dessus 7 ou 8 fois par nuit. Il y avait des infirmières qui claquaient les portes. Il y avait toujours du va-et-vient. Enfin, vous savez, des fois, j'arrivais au matin et puis j'avais guère dormi, quoi.
Avec les lettres, ça se passait comment?
Alors, avec les lettres, il y avait une dame, celle dont je parle, qui avait... était l'ami d'un psychiatre et qu'il dérangeait toujours avec des téléphones. Alors ce psychiatre l'a fait interner. Parce que vous comprenez, comme marié et père de famille, s'il avait passé devant un tribunal, s'il avait déposé plainte, passé devant un tribunal, c'était gênant pour lui. Alors il a mieux aimé la faire interner à Bel Air. Enfin, je pense aussi que j'avais une amie, une fois qui en faisait autant pour moi, par dépit, qui me dérangeait avec des téléphones, mais je l'ai menacée simplement de déposer plainte à la police. Mais je ne suis pas psychiatre. Alors, cette personne, qui était complètement lucide, elle me récoltait les lettres. Mais je me fiais à elle. On devait être prudente parce qu'il ne fallait pas se faire attraper. Et surtout, j'en passais une. Je passais des lettres pour une personne qui venait de la prison, à la barbe du juge d'instruction. Alors, je les ai cachées dans mes habits d'abord. Puis après, quand le courrier est devenu plus volumineux, j'ai pris une valise, je les cachais dans du linge que je rapportais aux personnes âgées, du linge dont j'assumais d'entretien. Après, il m'est venu à l'idée de transporter mes propres affaires dans la valise, en disant que c'était du linge pour les personnes âgées. Comme ça, je pouvais emporter plus de courriers, avec moins de risques que de les mettre dans mes habits, parce que pendant que je m'habillais le matin, les infirmiers et infirmières, évidemment, allaient entrer dans la chambre. Alors, je les cachais la nuit dans le linge, dans des draps, des têtes d'oreiller, des choses comme ça. Et c'est comme ça que le courrier passait. Et on ne s'est jamais fait attraper. Et il y a eu la malheureuse histoire de cette jeune femme qui aurait voulu me passer une lettre que je n'ai pas pu prendre, quoi. Et qui s'est suicidée. Elle était à bout. On lui avait séparé de sa famille. Elle ne pouvait plus voir son mari ni ses enfants. Son frère voulait la trouver. Elle se réjouissait de la visite. Le frère a parlé au médecin et est parti sans la voir. Enfin, elle essaye de se suicider une première fois. Et le lendemain, on la laisse plus d'une heure seule dans la salle de bain. Elle s'est ouvert les veines. Et il fallait faire disparaître son cadavre de la salle de bain. Alors, ils ont agi pendant le moment du repas où tout était à table. Mais voilà que cette dame, que j'appelle Madame F, et qui me passait les lettres, se lève à ce moment. Elle rencontre des infirmiers qui poussaient cette jeune femme sur un lit à roulettes. Elle a cru qu'elle était endormie. Elle était déjà morte à ce moment-là. Après, on n'a pas pu cacher sa mort. Alors, en essayant d'espionner, d'écouter aux portes, de fouiner, de flairer, j'ai appris que le mari voulait faire un procès à la clinique. Je me mets en rapport avec le mari. Et vous avez vu que ça n'a rien donné. Pour finir, il a renoncé au procès. Je pense qu'il a eu un bon arrangement avec les autorités compétentes. Et puis, il a pensé à un bon arrangement vaut un procès qui sera toujours incertain.
On va écouter un peu de musique On va écouter un peu de la musique de Asturias.
Thank you.
Vous venez d'entendre Asturias de Albéniz. Vous êtes à l'écoute de Radio Zone. Ce soir, c'est mercredi, c'est la pleine lune. Nous sommes en train d'avoir un entretien avec Madame Martine Desmond, qui a écrit un livre qui s'appelle « Torture psychiatrique à Genève ». Ce livre est actuellement dans toutes les librairies. Il a été publié aux éditions d'en bas. Voilà, nous continuons cette interview qui arrive du reste bientôt à sa fin. Martine Desmond, est-ce que vous voulez un petit peu nous parler maintenant de ce qui s'est passé après pour vous? Bon, aussi de la dupsie et de ce qui s'est passé, l'organisation des gens par rapport à la psychiatrie, et aussi qu'est-ce qui s'est passé pour vous personnellement?
Je vais d'abord dire ce qui s'est passé pour moi personnellement. Je souffrais d'insomnie, de cauchemars, j'ai dû faire de la léthargie, comme je l'ai décrit, je n'arrivais plus à me réveiller. Et surtout, j'ai eu un bras abîmé, la main crispe, j'ai été voir plusieurs médecins, on a pensé à de la néphrite, on a pensé à du rhumatisme. Et puis, j'ai passé un examen d'un jour à l'hôpital, et on m'a dit que ce bras n'avait rien, que c'était des troubles neurosubjectifs. Évidemment, j'ai fait de la physiothérapie aussi. Mais le physiothérapeute a dit qu'il en perdait son latin, qu'il n'avait jamais vu un cas comme ça. Et j'ai été trouver un avocat, le même avocat que j'avais eu pour cette affaire. Et il m'a dit qu'il faut qu'il y ait une liaison de cause à effet. Évidemment, il faudrait que vous ayez à ce moment-là un certificat d'un médecin de Bel Air, comme quoi c'est bien les traitements subis à Bel Air qui sont cause des troubles dont vous souffrez actuellement. Et aucun médecin, il m'a dit, ne vous faites pas d'illusions, aucun médecin ne vous le fera jamais. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Jamais un médecin de Bel Air aurait témoigné des traitements qui m'ont laissé des séquelles, quoi. Alors, voilà, c'est pour ça que depuis, je me suis jamais vraiment remise ma santé s'est améliorée, mais je crois que toute ma vie, je resterai marquée par un tel traitement. Et j'estime avoir beaucoup de chance, comparé à beaucoup de mes camarades qui n'en sont pas ressortis. Ou qui s'en sortent, qui s'ils ont survécu à des traitements pareils comme j'ai eu, sont plus à même de témoigner.
Et après donc être sorti de Bel Air, vous avez participé à la création de la dupsie plusieurs années après.
Oui, ça a commencé la dupsie, c'était en 79, sauf erreur qu'il y a eu. Alors j'ai rejoint la dupsie. Et c'est là que j'ai fait la connaissance, entre autres, du docteur Birensdahn.
Il faut peut-être dire que l'ADUPSIE, ça veut dire Association de défense des usagers de la psychiatrie.
Oui, des droits des usagers de la psychiatrie. Mm-hmm. Et on essaye évidemment de... Oui, c'est l'étude critique de tous les projets de révision de la loi sur l'internement et la toxicomanie, avec le souci de préserver et d'augmenter les droits légaux des usagers de la psychiatrie, et puis tenter d'établir des rapports avec les syndicats, les régies, afin d'empêcher toute discrimination à l'égard des usagers de la psychiatrie. Et enfin, il faut favoriser toute démarche allant dans le sens d'une légitime défense des droits des usagers de la psychiatrie. C'est peut-être pas, je suis pas habilitée à parler de carences dans l'administration, de services qui travaillent parallèlement, de manque de coordination entre les services, de ces choses-là. Hein. Mais ce que je pourrais demander, ce que je pourrais recommander, c'est une psychiatrie non violente. Il ne faut pas traiter un malade contre sa volonté, mais toujours obtenir son assentiment. Un traitement imposé par la contrainte fait beaucoup plus de mal à long terme que les troubles qu'il prétend soigner. Donc, il faut pratiquer une psychiatrie non violente. Je dois dire qu'à Bel Air, il n'avait pas les plus élémentaires notions de psychologie, pour traiter les malades, comme il traitait, comme j'ai été traitée, et comme d'autres aussi ont été traités. Quand Alain est mort, le 29 juin 1980, un infirmier a dit que depuis le début de l'année 80, ça faisait la cinquième mort suspecte. Évidemment, sans parler des suicides, parce qu'en cas de suicide, ils sont toujours couverts. Ils peuvent dire « c'est un malade, il s'est suicidé, de toute façon, ça sera arrivé ». Mais quand on voit la vérité, ça laisse vraiment réfléchir.
Quelle est la pratique de la dupsie? Comment est-ce que la dupsie est organisée pour vous qui y participez?
La dupsie, il y a un comité, de la dupsie qui discute des problèmes, on examine les cas qui nous sont soumis, on peut témoigner, les gens qui ont été psychiatrisés peuvent témoigner.
Il y a une permanence.
Il y a une permanence, oui, qui a lieu, sauf erreur, maintenant tous les mercredis. Enfin, on peut toujours se renseigner et on peut les contacter, la dupsie, qui est, je rappelle, 22 rue Neuve du Mollard. Enfin, pour tous les problèmes, on peut s'adresser à eux. Mais vous voyez que dans des cas, même leur intervention n'a pas été assez efficace. Par exemple, dans le cas d'Alain, celui qui est mort d'un traitement, d'une cure de sommeil, a essayé de s'adresser à la dupsie. Il y a un avocat spécialisé dans les cas d'internement abusif. C'est celui-là qui m'a dit que les médicaments... ces médicaments qu'on m'avait administrés étaient administrés dans les cas de répression et que les psychiatres connaissaient très bien leur effet et que c'était de la barbarie pure et simple de les administrer. Alors, on veut contrôler, la dupsie veut contrôler les traitements aussi à l'intérieur de Bel Air, comment les malades sont pris en charge, comment ils sont accueillis, enfin, ce qui s'y passe. Et évidemment que ce n'est pas toujours facile, vous savez.
Ce livre qui s'appelle « Torture psychiatrique à Genève » vient de paraître, mais je crois qu'il y a déjà eu des réactions à ce livre.
Oui, j'ai eu des lettres, j'ai jusqu'à maintenant eu deux lettres de gens qui m'approuvaient, d'une demoiselle qui m'écrit du canton de Fribourg. Elle dit qu'elle et son entourage n'auraient jamais imaginé que des choses pareilles, des atrocités pareilles puissent se passer dans notre Suisse si paisible. Peut-être que ça ne se passe pas ainsi dans les autres hôpitaux psychiatriques de la Suisse. Je ne parle que de Bel Air. Les autres, je ne les connais pas. Mais ça a pu aussi se passer ailleurs, dans d'autres pays.
Bon, pour conclure, on pourrait dire qu'on nous a promis une grande réforme de Bel Air. Tout va, paraît-il, être changé. Tout va être nouveau. Bon, personnellement, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, mais disons qu'on n'a pas encore vu qu'il y avait des changements concrets, des personnes que l'on peut connaître qui travaillent ou des personnes qui ont passé récemment là-bas n'ont pas pu remarquer des immenses changements. Il y a probablement eu des changements depuis l'époque où Martine Desmonts y a été incarcérée contre son gré, mais ce n'est certainement pas des changements fondamentaux. Martine Desmonts, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose à cette émission?
Eh bien, les revendications de la dupsie, les autorités politiques et médicales n'ont pas tenu compte jusqu'à maintenant des revendications des usagers de la psychiatrie. Le rejet systématique de leurs revendications est vraiment inacceptable. Il entraîne déjà qu'aucun problème de fond n'a été abordé. Cure de sommeil, électrochoc, traitement à haut risque, cellules d'isolement, investigation et recherche contre le gré de l'usager, perte des droits juridiques fondamentaux lors d'internement psychiatrique, sortie de la clinique mal préparée, sans place de travail, ni logement assuré. Enfin, ce que j'ai subi quand j'ai fait l'hôpital de nuit, la grande fatigue de ces longs trajets. Enfin, c'est tout des dangers pour l'usager de la psychiatrie de perdre sa liberté et son intégrité. Il faudrait enfin que nos autorités prennent conscience de ces problèmes et y répondent de façon objective et de façon positive.
Merci beaucoup, Martine Desmonts, d'avoir bien voulu venir ici ce soir. Je rappelle, pour les personnes qui sont arrivées en cours d'émission, Ce soir, nous avons parlé d'un livre qui s'appelle « Torture à la clinique psychiatrique de Bel Air »,« Torture psychiatrique à Genève », plutôt, ça s'appelle. Ça a été écrit par Madame Martine Desmonts, c'est aux éditions d'en bas. Vous pouvez le trouver dans la plupart des librairies de Genève, évidemment aussi au kiosque du boulevard.